Fred se trouvait dans le bureau de Hank en compagnie de celui-ci, d'un agent en uniforme et de Jim Barris, l'indic suant et grimaçant. Les trois hommes écoutaient une des cassettes apportées par Barris. Simultanément, un second magnétophone repiquait l'enregistrement. Le service voulait disposer d'un double.
« Oh, salut. Écoute, je ne peux pas parler maintenant. Alors quand ? Je te rappelle. Ça ne peut pas attendre. Bon, de quoi s'agit-il ? Nous projetons de... »
Hank fit signe à Barris d'interrompre le déroulement de la bande. « Pouvez-vous identifier ces voix pour nous, Monsieur Barris ?»«
Certainement. »
Barris ne se fit pas prier. « La voix féminine est celle de Donna Hawthorne, la voix masculine celle de Bob Arctor. »
« Très bien. »
Hank hocha la tête, puis jeta un bref regard en direction de Fred. Il avait le rapport des psychotechs sous les yeux.
« Continuez, je vous prie. »
« La moitié de la Californie du Sud demain soir. »
C'était la voix attribuée à Bob Arctor.
« L'arsenal de l'Air Force à la base de Vandenberg sera frappé. Nous nous y procurerons des armes automatiques et semi-automatiques. »
Hank interrompit sa lecture du rapport médical et inclina son masque brouillé comme pour mieux écouter. Barris souriait à part soi, mais son sourire, à présent, s'adressait aussi aux trois hommes qui l'entouraient. Il ne cessait de manipuler des trombones pris sur le bureau, comme s'il avait voulu tricoter avec des fils métalliques. Il tricotait, transpirait, tricotait. La voix féminine, Donna Hawthorne, se fit entendre.
« Et cette drogue que les anges devaient piquer pour nous ? Quand va-t-on porter cette vérole du côté des réservoirs et... L'organisation a d'abord besoin des armes, »
expliqua l'autre voix.
« Le reste, c'est la phase B. Dak, mais tu m'excuses, faut que j'y aille. J'ai un client. »
Clic, clic. Barris remua sur son siège et prit la parole.
« Je suis en mesure d'identifier la bande de motards dont il est question. Ils sont mentionnés sur une autre. »«
Possédez-vous d'autres enregistrements semblables ?» demanda Hank. « Assez pour former un dossier ? Ou bien cette cassette constitue-t-elle l'essentiel ?»«
J'en ai beaucoup plus. » »«
De même nature ?»«
Oui, ils font allusion à la même organisation subversive et à ses plans. » À ce complot bien précis.
Qui sont ces gens? De quelle organisation s'agit-il?
Ils font partie d'une organisation internationale qui...
Nous voulons des noms, pas vos conjectures personnelles.
Avant tout, Robert Arctor et Donna Hawthorne. Je dispose également ici de notes chiffrées.
Barris sortit maladroitement un calepin crasseux, faillit le laisser tomber en tentant de l'ouvrir.
Je confisque tout ceci, monsieur Barris. Les cassettes et autres documents en votre possession. Temporairement, ils deviennent notre propriété. Nous les étudierons nous-mêmes.
Mon écriture et tout le matériel chiffré que je...
Vous demeurez à notre disposition afin de nous rapporter toute précision que nous jugerons nécessaire le moment venu.
Hank fit signe à l'agent en uniforme, non à Barris, d'arrêter la cassette. Barris voulut tendre la main, mais fut brutalement repoussé par le flic. Il cligna des yeux, promena son regard autour de lui, sans cesser de sourire.
Monsieur Barris, poursuivit Hank, vous ne serez pas remis en liberté tant que nous n'aurons pas achevé l'étude de ces documents. Afin de vous avoir sous la main, nous vous retenons sous l'inculpation de communication délibérée de faux renseignements aux autorités. Cela n'est évidemment qu'un prétexte destiné à assurer votre sécurité, nous en sommes tous conscients. Toutefois, la plainte sera dûment enregistrée et transmise au district attorney, puis mise en attente. Cela vous paraît-il satisfaisant?
Il n'attendit pas de réponse et fit signe à l'agent d'emmener Barris, lequel souriait toujours bêtement. Hank et Fred demeurèrent seuls de part et d'autre du bureau encombré de preuves et de tout l'attirail de Barris. Hank ne disait rien. Il continuait la lecture du rapport médical. Au bout d'un moment, il prit son téléphone et appela sur une ligne intérieure.
« J'ai ici des documents à analyser. Je veux que vous me disiez dans quelle proportion ils sont truqués. » Lorsque vous m'aurez communiqué les résultats, je vous donnerai d'autres instructions. Il y en a dans les 6 kilos. Vous aurez besoin d'un carton modèle 3. Dak, merci. Il raccrocha. Le labo d'électronique et le service du chiffre, ajouta-t-il pour la gouverne de Fred, avant de replonger dans sa lecture.
Deux techniciens en uniforme, lourdement armés, firent leur apparition. Ils portaient un conteneur d'acier à fermoir.
« C'est tout ce qu'on a pu trouver, » dit l'un d'eux en guise d'excuse.
Ils se mirent à empiler soigneusement les divers articles réunis sur le bureau.
« Qui se trouve en bas ?»« Hurley. Qu'il examine tout ça aujourd'hui même et qu'il me contacte dès qu'il aura trouvé un indice de falsification. Dites-lui bien qu'il me faut ça dans la journée. »
Les techniciens refermèrent le conteneur et le traînèrent tant bien que mal hors du bureau. Hank laissa choir le rapport, se pencha en arrière et s'adressa enfin à Fred.
« Qu'est-ce que vous... Bon, quelle est votre réaction devant les preuves apportées par Barris jusqu'ici ?»«
C'est le rapport me concernant que vous avez là, n'est-ce pas ?» demanda Fred. Il tendit la main comme pour s'en saisir, puis se ravisa. « Le peu qu'il nous a fait écouter m'a paru authentique. »
« C'est bidon, » déclara Hank. « Entièrement truqué. »«
Peut-être avez-vous raison, mais ce n'est pas mon avis. » »«
L'arsenal en question à Vandenberg est sans doute celui de l'OSI. »
Hank prit le téléphone tout en continuant de réfléchir à voix haute.
« Voyons, comment s'appelait donc le type de l'OSI à qui j'ai parlé l'autre jour ? Il est passé mercredi avec quelques photos. »
Hank hocha la tête et se tourna vers Fred.
« Ça peut attendre. » Je jetterai d'abord un coup d'œil au rapport prélim du labo. Fred ?
Que dit le rapport à mon...
Il vous trouve complètement timbré.
Fred haussa les épaules, du mieux qu'il le put.
Complètement ?
Wie kalt ist es in diesem unterirdischen Gewölbe ?
À la limite, il y a encore une ou deux cellules qui clignotent dans le cerveau, mais ça s'arrête là. Le reste est complètement court-circuité.
Das ist natürlich. Es ist ja tief.
Deux, avez-vous dit ? Deux sur combien ?
Aucune idée. D'après ce que je sais, les cellules grises, c'est pas ça qui manque. On en a des milliards.
Il y a plus de connexions possibles entre elles, précisa Fred, qu'il n'y a d'étoiles dans l'univers.
Dans ce cas, votre moyenne du moment n'est pas fameuse, mon vieux. Deux cellules sur combien ? 65 milliards ?
Disons plutôt 65 milliards de milliards.
C'est pire que les vieux Philadelphia Phillies du temps de Connie Mack. Ils terminaient la saison au classement général avec une moyenne de 90.
Qu'est-ce que ça me rapportera d'insister sur le fait que j'ai récolté ça en mission ?
Ça vous rapportera de feuilleter gratis des piles de Saturday Evening Post et de Cosmopolitan dans une salle d'attente.
Où exactement ?
Quelles sont vos préférences ?
Laissez-moi le temps d'y réfléchir.
Je vais dire ce que je ferai à votre place. Je n'irai pas dans une clinique fédérale. Je m'achèterai 6 bouteilles d'un bon bourbon, I.W. Harper, par exemple. Et j'irai me planquer tout seul dans les collines de San Bernardino, du côté des lacs, où personne n'irait me chercher, en attendant que ça se passe.
Et si ça ne passe pas,
alors ne revenez pas. Vous connaissez quelqu'un qui aurait un chalet dans le coin ?
Non.
Vous pouvez conduire ?
Ma... Fred hésita. Une force calme l'envahit, comme dans un rêve. Il se sentit très détendu. Dans la pièce, tous les rapports spatiaux semblèrent se modifier, et même son sens de la durée en fut altéré. « Elle se trouve au... » Il bâilla.
« Vous ne vous rappelez pas ?
Je me rappelle qu'elle n'est pas en état de rouler.
Nous pouvons vous faire conduire là-haut par quelqu'un. Ce serait plus sûr, de toute façon. »
« Peut conduire où ça ? Sur des pistes, des routes, des sentiers ? En faisant du stop ? En pataugeant dans la Jello ? Comme un matou au bout d'une laisse qui n'a qu'une envie, qu'on le ramène à la maison ou qu'on le détache. »
Une phrase lui revint.
« Ein Engel der Gattin, sogleich, der führt mir zur Freiheit ins himmlische Reich. »
« Bien entendu, » dit-il en souriant. Soulagement. Il tirait sur sa laisse, cherchant à toute force à se libérer pour pouvoir s'étendre. « Que pensez-vous de moi maintenant que je suis dans cet état ? Complètement cramé, au moins pour quelque temps, et peut-être de façon permanente.
Je trouve que vous êtes un type bien.
Merci.
Prenez un flingue avec vous.
Quoi ?
Quand vous irez dans les collines de San Bernardino avec vos bouteilles d'I.W. Harper, emportez votre revolver.
Au cas où mon état ne s'améliorerait pas ?
Dans tous les cas, pour décrocher du régime qui est le vôtre, d'après le rapport, prenez-le avec vous.
D'accord.
Appelez-moi à votre tour. Tenez-moi au courant.
Mais je n'aurai pas mon complet brouillé.
Venez me voir avec ou sans complet.
D'accord. Visiblement, tout ça n'avait plus aucune importance.
Quand vous irez toucher votre prochaine paix, vous constaterez un changement considérable, la somme sera très différente. Vous voulez dire que j'ai droit à une sorte de prime après ce qui m'est arrivé ? Non. Relisez votre code pénal. Un agent qui devient délibérément toxicomane et ne signale pas immédiatement sa condition est passible d'une amende de 3 000 $ et ou de 6 mois de prison. Vous serez sans doute quitte pour l'amende.
Délibérément ?
Il l'a trouvé un peu dur. Personne ne vous a menacé d'une arme pour vous obliger à vous piquer. Personne n'a glissé de truc dans votre potage. Vous avez pris en toute connaissance de cause une drogue addictive et particulièrement dommageable pour le cerveau.
J'étais forcé.
Vous auriez pu faire semblant. La plupart de nos agents y parviennent. Et à en juger par la quantité que vous absorbiez, il fallait bien que vous ayez été...
Vous me traitez comme un escroc. Je ne suis pas un escroc.
Hank prit un bloc-notes et un stylo.
Voyons, où en êtes-vous côté salaire ? Je peux calculer la somme dès maintenant, si...
Je ne pourrais pas payer l'amende plus tard ? Peut-être par versement mensuel échelonné sur 2 ans ?
Soyons sérieux, Fred.
Bon.
Combien de l'heure ?
Impossible de se rappeler.
Combien en heures comptabilisées ?
Impossible.
Hank reposa son bloc-notes.
Une cigarette ?
Il tendit le paquet à Fred. Je laisse tomber ça également, comme le reste, y compris les cacahuètes et... Il ne pouvait plus faire l'effort de réfléchir. Les deux hommes restèrent assis en face, silencieux derrière leurs masques brouillés.
« C'est ce que je dis à mes gosses, » commença Hank.
« J'ai 2 gosses, 2 petites filles. »«
J'en doute fort. Vous n'êtes pas censé en avoir. »«
Peut-être pas. » Fred se perdait dans ses calculs. Quand ressentirait-il les premiers effets de la privation ? Combien de cachets de substances mortes avait-il encore planqués un peu partout ? De quelle somme disposerait-il sur sa paie afin d'acheter d'autres doses ?
Vous aimeriez peut-être que j'achève de faire le compte de ce que vous toucherez.
D'accord. Fred approuva vigoureusement de la tête. Faites donc ça. Comme Barris un moment plus tôt, il se mit à tambouriner nerveusement sur la table.
Combien de l'heure ? Reprit Hank en soulevant le téléphone. Je vais rappeler la caisse.
Fred ne dit rien et resta à attendre, les yeux baissés. Peut-être Donna pourra-t-elle m'aider, songeait-il. Donna, je t'en prie, aide-moi maintenant.
Je ne crois pas que vous arriverez jusqu'aux collines, lâcha Hank, même si on vous conduit.
Non.
Où voulez-vous aller ?
Laissez-moi le temps d'y réfléchir.
Une clinique fédérale ?
Non. Un silence. Pas censé en avoir. Fred se demandait ce que ça voulait dire.
Et chez Donna Hawthorn, suggéra Hank. Je crois savoir par vos rapports et ceux des autres agents que vous êtes très liés tous les deux.
En effet. Fred hocha la tête, puis se redressa brusquement. Comment savez-vous ça ?
Simple processus d'élimination. Nous savons qui vous n'êtes pas, et la liste des suspects n'est pas infinie. En fait, il s'agit d'un tout petit groupe. Nous pensions que vous nous mèneriez plus haut dans la filière. Ça marchera peut-être mieux avec Barris. Et puis... On a passé pas mal de temps à bavarder, nous deux. J'ai compris que vous étiez Arctor depuis un bon moment, déjà.
Je suis qui ? Fred braqua son regard sur le complet brouillé qui lui faisait face. Bob Arctor ? Il n'en croyait pas ses oreilles, tellement c'était absurde. Ça ne cadrait ni avec ses actions, ni avec ses pensées. Grotesque.
Peu importe, dit Hank. Vous avez le numéro de Donna ?
Elle est sans doute au travail. La voix de Fred tremblait. À sa parfumerie, c'est le... Il pouvait à peine parler et ne parvenait pas à se rappeler le numéro. Je serais Bob Arctor, moi ? Jamais de la vie ! Mais alors, qui suis-je ? Peut-être.
Hank parlait rapidement dans le combiné.
Trouvez-moi le numéro de Donna Hawthorn à son travail.
Il tendit l'appareil dans la direction de Fred.
Je vais vous la passer. Et puis non, je ferais peut-être mieux de m'en abstenir. Je lui dirai de vous prendre où ? Nous vous conduirons à l'endroit choisi. On ne peut pas la faire venir ici. Quel serait le bon coin ? Où la retrouvez-vous d'habitude ?
Emmenez-moi chez elle. Je sais comment on entre.
Je lui dirai que vous êtes là-bas et en plein sevrage. Je prétendrai que je vous connais et que vous m'avez demandé d'appeler.
Oui, très bon. Merci, mec.
Hank hocha la tête et reprit le téléphone pour appeler cette fois un numéro extérieur. Fred eut l'impression qu'il formait chaque chiffre un peu plus lentement que le précédent et que la chose n'allait jamais finir. Il ferma les yeux et respira profondément.
Merde, je suis un vrai désastre.
Ça, tu peux le dire. Défoncé, cramé, pété, complètement baisé, voilà ce que t'es. Ça lui donnait envie de rire.
Nous vous mènerons jusqu'à elle, commença Hank, qui n'eut pas le temps de poursuivre. Allô, Donna ? Ici, c'est un copain de Bob. Tu sais qu'il est mal barré, Bob. Ah, je blague pas, écoute.
Ouais, pas mal, pensèrent deux voix à l'unisson dans son esprit en entendant Hank sortir le gros baratin à Donna. Et n'oublie pas de lui dire de m'apporter quelque chose. Je presse méchamment. Peut-elle m'avoir un truc ? Et même me faire une supercharge comme elle sait ?
Il tendit la main vers Hank, mais n'eut pas la force de le toucher. Son bras retomba.
« Je vous revaudrai ça, » promit-il à Hank, tandis que celui-ci raccrochait.
« Restez assis dans votre coin en attendant la voiture. Je vais la demander immédiatement. »
Il forma un nouveau numéro.
« Le parc ? J'ai besoin d'un véhicule banalisé et d'un chauffeur en civil. Vous avez ça ?»
Les deux individus, sous le complet brouillé de Fred, fermèrent leurs yeux, attendirent.
« Je devrais peut-être vous faire conduire à l'hosto, » dit Hank. « Ça n'a pas l'air d'aller fort. » Il se peut que Jim Barris vous ait empoisonné. À vrai dire, nous nous intéressons principalement à Barris. Le contrôle continu de la maison, c'était surtout pour lui, pas pour vous. On espérait l'attirer ici, et on y est arrivé.
Hank marqua une pause.
Voilà pourquoi je savais bien que ces bandes et ces autres trucs étaient bidons. Le labo confirmera. Barris est sur un coup important, quelque chose de pas très joli, et où il est question d'armes. Et moi, qu'est-ce que je suis ?
Demanda Fred, en élevant brusquement la voix.
Fallait qu'on piège Jim Barris.
T'as d'enculé !
De la façon dont on s'y est pris, Barris, si c'est bien son nom, Barris s'est peu à peu douté que vous étiez un agent des stupes sur le point de le coincer ou de l'utiliser pour remonter plus haut. Alors il a...
Sonnerie du téléphone.
Eh bien voilà, fit Hank un moment plus tard. Restez assis, Bob. Bob, Fred, peu importe. Vous pouvez être content. On tient le salaud et c'est un bel... C'est exactement ce dont vous nous avez traité il y a un instant. Vous voyez bien que ça valait la peine de le piéger, hein ? Quel que soit le coup qu'il mijotait, vous ne trouvez pas ?
Sûr, ça valait la peine.
Fred pouvait à peine articuler. Sa voix n'était plus qu'un grincement métallique. Les deux hommes restèrent assis face à face,